Open source, logiciels libres, vie privée numérique, culture du libre, VPN, solutions alternatives, dégooglisons Internet, sobriété numérique ou low-tech. On observe de plus en plus sur notre chemin ces mots aux sonorités amicales ou inconnues. Est-ce que ça nous intrigue ou fatigue? Car là est bien mon interrogation. Prenant comme sujet facile l'observation, l'être que je tends d'être au monde avec la personnalité qui me caractérise, la réflexion sur le monde qui m'habite, l'histoire de vie dont je suis issue, les valeurs qui me parlent, les croyances auxquelles je me raccroche, le corps qui me sert de moyen à, l'éducation que j'ai reçue. Constatant un sentiment grandissant d'impuissance et d'incertitude sur la vie numérique que je mène, il me paraissait sain de mettre de l'ordre dans tout ça et d'aller questionner à la source. Et puisque le local, en plus d'être pertinent, ses tendances et d'actualité, partons à la recherche des acteurs de la région nantaise, qui œuvrent à proposer des solutions respectueuses de ses usagers. J'ai pu poser mes questions à ceux qui avaient un peu de temps en ces temps troublés et incertains. Des interviews réalisées avec les moyens du bord, en face à face, en visioconférence ou au téléphone. Vos oreilles capteront direct la différence de qualité, vous m'en excuserez. Je crois qu'une réflexion se construit au gré des rencontres et du vécu, s'approfondit, se rétropédale ou se change de direction. Peut-être d'ailleurs pouvons-nous y voir une métaphore par le vélo, à creuser. Faisons un rapide tour de table des protagonistes, sans entrer dans les détails. Il y a Serge, cofondateur du chaton L'Heure est tienne libre, Tristan, fondateur du chaton nantais Drycat, maintenant fermé, Shreux, de l'association Nos Oignons et des cafés Vie Privée à Nantes, Stéphane, professeur à l'Université Technologique de Compiègne et bénévole à Framasoft, et enfin Julien, chargé de développement dans l'association nantaise Ping. En me faisant tantôt naïve, tantôt avocate du diable face à eux, je cherche avant tout à retrouver la foi et la combativité dans ma pratique quotidienne du numérique. On s'embarque ?
En tout cas, moi ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un particulier, très clairement, quelqu'un qui débarque comme ça dans ce monde du numérique, il n'est pas aidé, en fait, il est même sollicité pour tomber dans les bras des acteurs les plus pourris qui soient. C'est clair. C'est extrêmement facile. On se laisse facilement guider dans ce monde-là, et les acteurs principaux, donc les GAFAM en particulier, nous captent. Hein.
Donc GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
La plupart de ces entreprises, leur but c'est de faire de l'argent. C'est surtout pas de proposer des services.
Au niveau européen, on a vu apparaître le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Voté en avril 2016, si vous vous en souvenez, pour justement poser un cadre de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données, à caractère personnel, et à la libre circulation de celles-ci, quand on crée un compte ou on remplisse un formulaire en ligne, par exemple.
Purement européen, qui veut nous sensibiliser sur le fait qu'effectivement, il y a certains logiciels où on ne permet pas aux entreprises de collecter les informations sans qu'on soit au courant. Sauf que c'est un jeu de dupes, il ne faut pas rêver.
Effectivement, c'est bien ce qui se passe en ce moment même avec l'application WhatsApp, qui deviendra inutilisable au fur et à mesure pour celles et ceux qui refusent les nouvelles conditions d'utilisation. Concrètement, l'entreprise américaine veut permettre aux utilisateurs de pouvoir passer une commande et de la payer directement dans l'application, nécessitant pour cela la collecte de données en plus. Ce sont des services évidemment facturés aux annonceurs, rendant l'application plus rentable.
Le fonctionnement de ces GAFAM, d'un point de vue purement financier, il est basé sur la collecte des informations et la revente des informations pour faire de la publicité ciblée. Mais si on regarde un TF1, c'est pas mieux.
Le modèle... Stéphane. De toutes les grandes entreprises numériques, de l'immense majorité des entreprises numériques, est basée sur la publicité. C'est-à-dire que ce avec quoi aujourd'hui on paye les services dits gratuits, ce sont soit nos données personnelles, ça on nous l'a dit, donc c'est de la vie privée, mais c'est du temps d'attention, et c'est du temps d'attention qui sert à vendre des produits dont on n'a pas besoin, qui donc eux-mêmes servent à augmenter et à aggraver notre problème de consommation énergétique. Donc pour moi, il y a quand même un truc extrêmement... on ne peut pas imaginer, si on est préoccupé par ces questions-là, en tout cas, continuer d'utiliser des services qui donc ne sont pas gratuits, mais in fine sont payés en consommation inutile.
Qui donne de l'argent à ces entreprises? Les clients des GAFAM, ce sont les annonceurs, donc les entreprises qui veulent vendre des produits. Qui sont les abonnés des GAFAM? Ce sont les produits. Si c'est gratuit, c'est un produit. En fait, on n'est que des produits. On ne sert qu'à ça. On est des produits potentiellement acheteurs de d'autres produits qui sont proposés par les entreprises qui, eux, payent les GAFAM. Ça, il faut absolument le comprendre. En vérité, tout abonné de Facebook, de Twitter ou de Google est potentiellement un produit. Et on vend quoi ? Enfin, on leur donne quoi ? Nos données personnelles, qui sont très importantes. Nous sommes leurs produits. C'est nous qui sommes étudiés, consultés, etc., pour pouvoir mieux vendre à leurs clients la surface de pub ou des actes de vote. Et en fait, leur richesse, ils l'ont obtenue de manière extrêmement rapide. Un Mark Zuckerberg, il est à peine plus vieux que vous. Le deuxième problème très grave des GAFAM, c'est qu'en fait, ils se sont enrichis de manière colossale et incroyable, quoi. Ça pose d'énormes problèmes parce qu'ils deviennent extrêmement puissants.
Donc ils peuvent faire leur loi, en fait.
Ils font. Donc une société privée, elle, toute seule, devient plus riche que la plupart des pays du monde. Ce ne sont pas des sociétés démocratiques, hein. Les entreprises ne sont surtout pas démocratiques. Donc l'intérêt d'une entreprise, c'est de faire du business, hein. C'est surtout pas que les gens soient heureux. Moi, ça, c'est ma conviction personnelle. Il n'y a pas de surrichesse qui se soit faite sans écraser un certain nombre d'individus autour de nous. Donc ce sont des valeurs qui ne peuvent pas être acceptables. Et aujourd'hui, c'est eux qui gèrent la planète. Et ils sont malheureusement un peu trop américains à mon goût.
Sans parler des géants du numérique chinois, appelés les BATHX pour Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi.
La plupart des valeurs qui sont défendues par ces gens-là sont des valeurs purement économiques. Ils font tout pour pouvoir faire encore plus d'argent. Et c'est tout ce qui les intéresse. Et avoir du pouvoir, parce que argent, pouvoir, tout ça aussi, c'est extrêmement lié. Donc malheureusement, ces GAFAM deviennent des pouvoirs qui, si les politiques n'ont pas le courage de les casser, vont pouvoir prendre la main sur nos États. Donc ces entreprises-là, pour moi, sont dangereuses. Et le problème, c'est que... donc elles le sont à cause de nous. Donc on est conscient qu'aujourd'hui, on a ces fameux GAFAM qui nous proposent des outils qui sont séduisants, et que ces outils-là sont des gros problèmes parce que le prix à payer est beaucoup trop cher par rapport aux services qu'ils nous offrent. Enfin, en tout cas, vu de ma fenêtre à moi, le prix à payer est trop important. Clairement. Je n'accepte pas que mes données soient récoltées pour faire du business.
Faisons intervenir Arthur Messot, analyste juridique et politique au sein de l'association La Quadrature du Net, qui défend les droits et libertés des citoyens sur Internet depuis 2008. Il nous dit, plutôt que d'essayer de faire un GAFAM européen, il faut faire l'alternative parfaite au GAFAM, c'est-à-dire l'Internet des origines, donc décentralisé, qui respecte les libertés européennes. Il ajoute qu'aujourd'hui, la concurrence sur Internet est sacrément affaiblie par la position dominante de quelques acteurs, donc les GAFAM, qui, grâce à leur pouvoir de surveillance, leur abus sur les données personnelles, mais aussi leur pouvoir de censure généralisé, peuvent mettre tout le reste de l'économie au pas. Il faut contester le pouvoir des GAFAM, notamment les obligeant à respecter le RGPD, mais aussi en déconstruisant leur pouvoir de censure. Fin de citation. Le politique et le numérique sont donc intimement liés. Et ça questionne l'indépendance numérique de l'Europe, qui nous paraît maintenant indispensable.
Ces GAFAM, donc on voit qu'ils ont une très très grande expertise sur le comportement des personnes, c'est ça qu'il faut retenir, et que cette expertise va être détournée. Donc c'est le principal problème des GAFAM aujourd'hui. Sauf que là, il y a des dérives. On a vu les dérives du système de collecte d'informations apparaître, et essentiellement avec... l'histoire de Cambridge Analytica. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Cambridge Analytica ? Voilà une société anglaise et qui va proposer aux internautes qui le veulent bien de donner de leur propre volonté des informations sur eux contre rémunération. Son logiciel va être installé 150 000 fois. Sauf qu'ils vont récupérer quelques 40 millions d'informations, enfin, des informations sur 40 millions de personnes. Parce qu'un des gros problèmes de la collecte d'informations, c'est qu'elle n'est pas que sur les informations qui nous sont propres. En fait, nous sommes nous-mêmes détenteurs d'informations de nos environnements, enfin de nos amis, de notre entourage. Et Cambridge Analytica, le but, là, c'est pas de faire du commerce, c'est de carrément jouer sur les élections électorales, les élections électorales. Oh là là ! Des élections présidentielles, en l'occurrence. D'un point de vue algorithmique, on sait parfaitement le comportement des gens. On va détourner cette connaissance pour en faire un usage qui, là, va pas être publicitaire, acte d'achat, mais carrément acte de vote. Et donc, Cambridge Analytica, c'est ça. C'est, on a simplement incité des personnes à aller dans une direction donnée pour leur vote, en sachant qui ils étaient, et en sachant ce qu'on allait leur donner comme information. Savez-vous que le jeu Candy Crush a été créé pour faire une étude sociologique sur les personnes? Comment on va accrocher le joueur? Quel est le système de punition-récompense qui va permettre de garder le plus longtemps possible le joueur sur son écran? D'un point de vue informatique, ils ont fait la même chose, Candy Crush a aidé à le faire, et les réseaux sociaux, et Amazon en tête, Twitter, savent pertinemment comment on va capter l'attention des utilisateurs et comment on va la conserver. Et je sais bien que YouTube m'enferme dans une bulle. Et là, on en arrive à un autre problème. C'est que les algorithmes qui font, qui veulent nous garder, nous capter, nous continuer à nous faire consommer leurs produits, font qu'ils nous renferment dans des bulles, dans des communautés, qui, ces communautés, s'exècrent de plus en plus les unes les autres, on tolère de moins en moins l'avis différent de quelqu'un d'autre, et ça crée les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui de communication. Et les GAFAM y participent de manière colossale, et elles y participent non pas par complotisme ou par volonté d'imposer des vues, c'est simplement purement commercial.
Un autre exemple, donné cette fois-ci par Julien, que les données qu'on génère sont très lucratives, sans qu'on en ait conscience.
J'ai découvert dans le documentaire Les Travailleurs du Clic, les mecs font du vélo avec Uber Eats. L'économie d'Uber Eats, c'est pas d'amener de la nourriture à proximité des gens, c'est de vendre les trajets des vélos aux futures voitures Google autonomes. Quoi. Le problème, c'est qu'ils veulent vendre des voitures autonomes pour gagner de l'argent et pas pour aider tes grands-parents. Et comment gagner plus d'argent? Bah, privatisons nos données en faisant tous ces trajets qui vont valoir de l'or parce qu'on pourra détecter les meilleurs trajets, etc.
Valoir de l'or donc pour les usages de demain. Et en effet, les chiffres sont colossaux. En 2018, chaque minute, 3,8 millions de requêtes sont effectuées sur Google. 13 millions de SMS sont envoyés et près de 50 000 photos sont publiées sur Instagram. Sans compter l'année dernière où les chiffres ont explosé de par le confinement généralisé. Écoutez un peu. 350 000 stories Instagram publiées par minute. TikTok installé 2700 fois. 42 millions de messages WhatsApp envoyés donc par minute. 208 000 participants en visioconférence Zoom, toujours chaque minute. De quoi donner une tournée, n'est-ce pas? On retrouve d'ailleurs ces chiffres sous forme d'infographie éditée chaque année par l'entreprise digitale Domo. Et tout ça, on s'en rend pas vraiment compte. D'autant plus que on comprend de moins en moins tous ces outils que nous utilisons quotidiennement, soit par manque de temps, d'envie ou de motivation.
Alors après, la question des GAFAM, bah, eux, ils vont... En quelque sorte, ils exploitent cette facilité et une certaine passivité technique dans laquelle on se pose justement parce qu'on va courir après la facilité. Et ensuite, à partir de là, eh bien, ils vont utiliser leur une position dominante à un moment pour, eh bien, par exemple, maximiser du temps d'usage, faire en sorte qu'on soit le plus possible connecté à tel ou tel service. Alors, encore une fois, c'est pas un jugement moral a priori, mais si on n'est plus en état de choisir le temps que l'on passe, eh bien, on peut quand même se poser la question, quoi. On peut aussi se poser la question avec, voilà, les choses que l'on a vues, les scandales, comme on les appelle, de manipulation d'opinion, par exemple, ou alors, on en parle peut-être un petit peu moins, mais il y a aussi le fait que l'ensemble du modèle, aujourd'hui, enfin, en tout cas, le modèle dominant est lié à la publicité, c'est-à-dire continuer à augmenter artificiellement notre consommation, donc notre impact écologique. Donc oui, c'est le modèle unique du numérique, c'est-à-dire si on ne peut plus utiliser nos ordinateurs ou nos logiciels que en participant indirectement à la consommation d'autres objets, il y a quand même un truc qui est un peu bizarre, quoi, qui est un peu dont on a l'impression qu'on pourrait se passer, quoi. Si on prend un modèle comme celui de YouTube aujourd'hui, eh bien c'est un modèle qui impose en quelque sorte le modèle de monétisation, de popularité, de publicité, etc. Or, vous pouvez très bien, donc si vous avez envie de rentrer dans cette logique-là, eh bien, c'est votre droit, mais vous pouvez aussi avoir envie de diffuser des vidéos sans chercher ni de rémunération, ni de gloire, vous pouvez avoir plein d'autres motivations pour faire ça. Et là, vous avez, voilà, vous n'avez pas forcément l'offre, en quelque sorte, la possibilité technique de faire ça. Alors en fait, on l'a justement parce qu'il existe un certain nombre de solutions alternatives, mais du coup, c'est l'intérêt de ces solutions alternatives.
Sur tous les produits, on a une diversité de choix. Les voitures, on peut choisir la marque, on peut choisir le pays fabricant, on peut choisir le modèle essence, électrique ou ce qu'on veut. On a différents choix, c'est nous qui le faisons, librement. L'informatique, on n'est pas libre.
Effectivement, quand j'achète un PC, Windows est directement installé dessus. Alors qu'il existe d'autres systèmes d'exploitation comme Linux, qui est un système d'exploitation libre. Pour Nicolas Mazzucci, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, interrogé par France Culture, l'enjeu est très simple. Être capable demain de proposer les services les plus adaptés et personnalisés aux gens, être capable de monétiser un certain nombre de services, être capable d'avoir les données qui vont permettre l'entraînement des intelligences artificielles. Les données ne sont pas seulement l'enjeu capital du marché du numérique, c'est l'enjeu de l'économie tout court. Fin de citation.
Savoir si c'est des méchants ou pas, s'ils ont l'intention de nuire au monde ou pas, d'abord je suis pas sûr que ce soit finalement une question si primordiale que ça, puisque ce qui compte c'est plutôt les effets, à mon sens, les effets qui sont produits. C'est-à-dire du coup, même si c'est très gentiment qu'ils sont en train de... enfin, par exemple, voilà, si à un moment des industriels sont très gentiment en train de détruire des écosystèmes, mais vraiment sans avoir l'intention de le faire, c'est pas très différent de celui qui fait exprès d'aller cramer de la forêt juste pour le plaisir, in fine, quoi. Le résultat est à peu près le même. Donc du coup, enfin, quelque part, moi, ça m'intéresse pas plus que ça de savoir si Elon Musk ou Mark Zuckerberg sont des gens sympas qui ont une bonne vision pour le monde ou pas. Encore une fois, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on ait le choix entre ces visions, et même que ces visions existent, ne me dérangent absolument pas, au contraire. Mais par contre, il faudrait qu'on puisse avoir le choix et qu'on ne considère pas que la vision du monde qu'ont les personnes qui à un moment décident de ce que sont et ce que deviennent nos outils. Que leur vision du monde ne soit pas la seule possible. En tout cas, pour moi, le problème essentiel, il est là. Je suis très content qu'il y ait des grandes entreprises lucratives qui s'attellent à construire des choses qu'elles trouvent formidables, etc. Et je serais aussi content qu'il y ait autant de puissance et autant d'énergie qui soient mis en place par d'autres personnes qui cherchent à construire d'autres outils avec d'autres objectifs.
Une réponse, ça pourrait être d'être dans la rue en train de dire « fermez les GAFAM, fermez les GAFAM, fermez les GAFAM ». Ce serait peu efficace, à mon avis. Une autre approche, c'est plutôt de dire « on pourrait proposer des solutions alternatives aux GAFAM ». De la même manière que rien ne vous impose d'aller chercher de la malbouffe dans les grandes surfaces, vous avez tout à fait le droit d'aller chez le petit producteur local pour aller chercher vos légumes. Là, on arrive maintenant dans le monde associatif éthique.
Oui.
D'accord ? Qui est une réponse, en fait, à Anti-GAFAM.
Trois associations essentielles en France qui œuvrent en ce sens. April, qui se bat plutôt côté licence et droit d'utilisation des logiciels. La Quadrature du Net, qu'on a évoqué un peu plus haut. Et Framasoft, qui soutient un réseau de projets promouvant le libre et sa culture auprès du grand public.
Le logiciel libre, c'est essentiellement du logiciel qui appartient à tout le monde. L'open source, ça définit que le logiciel est ouvert. Vous allez dans une... Il y a deux pâtisseries l'une à côté de l'autre. Dans une, vous avez un beau gâteau, très brillant, qui a l'air très appétissant. Vous allez voir la pâtissière qui vous dit « Ah, ben... Ouais, moi, c'est un gâteau, je vous le vends, il est tel quel. » « Ah, mais vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans ?» Ah ben non, c'est mon secret de fabrication. C'est un gâteau pas open. La pâtisserie d'à côté, vous voyez un gâteau qui est un petit peu moins brillant, mais bon, qui est quand même assez appétissant, mais ouais, il n'est pas aussi parfait, il y a moins de colorants. Et vous demandez à la pâtissière, elle vous dit, ah ben je vous donne la recette. Vous allez même pouvoir le refaire chez vous si vous voulez. Là, c'est une pâtisserie open. Si on veut comprendre le logiciel libre, on a les trois éléments de base, les trois briques. Le développement collaboratif sur du code que l'on met à disposition de chacun et qui va être protégé par une licence. Waouh! Alors, on pourrait se dire, oh ouais, bon, enfin, ça va rester du bricolage parce que tout ça, c'est quand même des amateurs qui le font. Eh ben, c'est tellement pas du travail d'amateur que c'est du travail qui est bien nettement meilleur que n'importe quel logiciel propriétaire. Voilà. Le logiciel libre, très clairement, quand on utilise un logiciel, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, les codes qu'il y a derrière, c'est abscon, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de ce qu'il y a là-dedans. Par contre, si on me donne les recettes de construction de ce logiciel, donc ça reste des lignes de code, hein, c'est pas accessible par tous, mais enfin bon, un certain nombre d'entre nous savons le lire. Donc ça reste des lignes de code, on voit très très clairement comment le logiciel est fait, ce qu'il contient, ce qu'il fait. Un système comme Windows, on ne sait pas ce qu'il fait.
Donc du coup, là, c'est aussi une des raisons pourquoi...
Qui permettrait de dire aux gens, ah bah oui, mais tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'aille voir ailleurs? Puisque du coup, j'ai une boîte noire, je ne sais pas ce qu'elle me fait, elle m'observe, elle me surveille, elle envoie des informations de télémétrie, comme ils disent, hein, alors que moi, le logiciel libre, bah, je sais ce qu'il fait. Ça peut hein, qu'il envoie des informations, mais je sais quelles informations il envoie, et à qui il les envoie. Et comme ça, je ne sais pas. Je vais prendre l'exemple de ma belle-mère. Oh, elle est décédée, là. Elle s'est mise dans l'informatique à 80 ans.
Okay.
Et pour moi, il était beaucoup plus évident, partant de zéro, et comme elle n'avait jamais été polluée par une formation quelconque d'autres systèmes, en la mettant immédiatement sous Linux, elle n'avait aucun souci. Et elle n'avait pas plus de code à rentrer. Là encore, ça, c'est des images que l'on veut donner au logiciel libre. C'est fait que pour les geeks, il faut taper des mots de commande et tout ça.
C'est vrai.
C'est faux! Les machines sont beaucoup plus performantes, elles consomment beaucoup moins de ressources, une machine plus faible permet de faire fonctionner dans les mêmes conditions.
Je m'attarde un peu sur l'ergonomie. D'après le dictionnaire, discipline qui vise l'adaptation d'un système à son utilisateur, afin que ce dernier puisse mener ses activités avec un maximum d'efficacité, de satisfaction et de bien-être, grâce à une phase d'adaptation réduite. Grâce à une phase d'adaptation réduite, qui n'a pas galéré à trouver ce qu'on cherche sur l'ordi d'un pote, d'un frère ou d'une sœur, d'un collègue ou d'une collègue, d'un parent, qu'importe, de quelqu'un d'autre utilisant un système d'exploitation différent du nôtre, Windows ou Mac ou Linux. Que ce soit libre ou pas libre, il n'y a justement pas de différence. Pourquoi ? Parce que justement, on s'habitue à une manière de chercher l'information, à une manière de présenter, à une certaine logique. D'autant plus lorsqu'on apprend à l'école l'informatique sur le même système d'exploitation durant toute sa scolarité. L'ergonomie est donc là un faux argument. Il est normal de galérer. Tristan nous parle d'ailleurs du logiciel libre de visioconférence Jitsi Meet, qui a aussi vu son utilisation augmenter avec les confinements.
Jitsi Meet s'est énormément amélioré lorsqu'on avait... Lors du premier confinement, parce que justement, il était très utilisé, il y a eu des retours. Parce que oui, c'est ça aussi l'avantage du logiciel libre, c'est que tu as besoin d'une feature ou quoi que ce soit. Si cette feature, beaucoup de personnes l'ont pensé tout et qu'elle est réalisable, potentiellement les développeurs vont réagir. Il m'est arrivé quelquefois de dire, voilà, ici ça serait sympa, ça c'est buggé, ça c'est cassé. Et derrière, il y a des gens qui, sur leur temps personnel, qui vont aider, qui vont améliorer. Et c'est comme ça que Jitsi Meet s'est amélioré. C'est comme ça que, côté de ma famille, on utilise ça plutôt que Zoom ou Discord.
VLC, vous l'avez sur votre ordinateur ?
Oui.
C'est un logiciel libre français.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas meilleur logiciel. On a parlé de Firefox, on a parlé de Thunderbird, on a parlé de VLC, on a parlé de LibreOffice ou OpenOffice, c'est la même chose. En traitement de texte, c'est des logiciels qui sont extrêmement puissants. Donc Linux, évidemment, qui est bien, bien meilleur en termes de sécurité. La plupart des sites Internet sont hébergés par un logiciel qui s'appelle Apache. 60% ou 70% des serveurs informatiques de la planète sont sous Linux, avec Apache. On a plein de machines qui fonctionnent sous Linux. Vous avez une box ?
Oui.
Elle est sous Linux. Vous avez une borne Wi-Fi ? Elle est sous Linux. Vous avez une caméra web ? Elle est sous Linux.
Ah oui.
Et notre téléphone Android, il est sous Linux. Donc en vérité, le logiciel Linux est largement le logiciel le plus diffusé au monde. Alors pourquoi c'est du Linux dans nos box, dans nos téléphones et dans nos bornes, etc. Tout simplement parce que un fabricant de matériel réseau, de matériel informatique, ne veut pas reconstruire le monde depuis zéro.
Oui, du coup il se sert de ce qui est déjà...
Exactement, de ce qui est fiable.
Oui. Et oui, fiable.
Solide, fiable,
performant.
Personne ne pourra tuer le logiciel libre.
Alors,
wow. Et comme je viens de le dire, comme je viens de l'expliquer, en vérité, on le trouve partout déjà.
Oui.
Donc en fait, le logiciel libre a déjà gagné, sans qu'on le sache, sans que le grand public le sache, il est déjà autour de nous partout.
Le numérique, en fait, aujourd'hui, l'informatique, traverse absolument tout ce que l'on fait au quotidien. On ne fait plus rien aujourd'hui, ou quasiment plus rien, sans qu'à un moment, il y ait un morceau de logiciel qui soit quelque part impliqué dans le processus. Même si on prend l'exemple d'Action, où on n'a pas l'impression qu'il y a un ordinateur qui joue un rôle au quotidien, je ne sais pas moi, que ce soit dans l'habitat ou dans certains modes de transport, etc., eh bien en fait on va se rendre compte qu'il y a toujours un bout de logiciel qui est caché quelque part, alors soit dans l'objet lui-même, évidemment dans les voitures ou même dans un vélo électrique, et puis sinon ça va être au moins dans le processus de conception qui a permis d'aboutir à l'objet qui lui ne contient plus du tout de numérique. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui traverse tous nos outils, tout le champ de nos outils. Et du coup, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à nos outils. Une théorie qui a été établie par des anthropologues et philosophes de la technique au XXe, c'est que si l'homme, bien sûr, fabrique les outils, eh bien en quelque sorte, il est aussi fabriqué par ses outils en retour. C'est-à-dire que les outils que l'on utilise, eh bien, ils configurent la façon dont on interagit avec le monde, dont on pense et donc dont on vit. Donc, si on accepte ça, enfin, si on est d'accord avec ça, donc d'une part que le numérique, eh bien, est une sorte d'outil un peu totalitaire qui traverse tout et qu'il participe à nous fabriquer, bah, du coup, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et d'avoir conscience que, typiquement, le concept de bulle de filtre existe, et puis même, du coup, être capable d'une certaine façon d'aller plus loin et de comprendre même comment ça fonctionne. Alors, une fois qu'on a compris ça, ça peut être pour décider de ne pas l'utiliser, ça peut être pour décider de le tromper en quelque sorte, ou de l'utiliser à ses propres fins, enfin peu importe, là du coup il n'y a pas forcément de jugement moral sur ce qu'on va en faire, mais par contre il y a effectivement cette idée que pour avoir un choix en quelque sorte, faut comprendre la mécanique. Alors du coup c'est pas forcément chacun qui doit comprendre la mécanique du code typiquement de l'algorithme, de tel algorithme de Facebook par exemple, ou de Google, ou du logiciel que l'on utilise, mais au moins c'est connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est avoir la possibilité de ne pas s'en remettre uniquement aux concepteurs qui ont posé le code et qui donc l'ont, enfin s'ils ne l'ont pas rendu libre, ou plutôt s'ils l'ont rendu non libre, hein, parce que un truc aussi, je digresse un peu, mais avec l'informatique, c'est que le code, il est libre. Hein, le code de départ, le code informatique, il est libre, il est ouvert. Donc c'est toujours l'inverse, c'est toujours un acte. On parle parfois de libérer le code, mais c'est plutôt le contraire. En fait, c'est toujours un acte de le rendre, en fait, non libre, quoi. Au départ, il n'y a pas vraiment de raison qu'il le soit, si ce n'est effectivement après la volonté de, ben justement, qu'on n'accepte pas, qu'on puisse pas le copier ou qu'on puisse pas le lire, l'interpréter, etc. Donc voilà, donc oui, après ce que je disais, c'est que pour moi c'est une condition pour avoir un moment pour avoir le choix, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord ou si on n'a pas envie d'utiliser tel ou tel logiciel, eh bien il faut avoir la possibilité d'en utiliser un autre, de le fabriquer, etc., etc. Et c'est là aussi où l'écosystème du libre prend son sens, c'est-à-dire qu'à un moment, eh bien si tel logiciel ne vous plaît pas, vous, il en existe un autre, et puis si cet autre ne vous plaît pas exactement, eh bien vous avez la possibilité, alors encore une fois, chacun ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais d'en faire une copie et puis de le modifier pour qu'il corresponde à ce que vous voulez en faire. D'une certaine façon, le libre, ou l'informatique libre, c'est un peu à notre sens, à mon sens et au sens des personnes qui participent à une association comme Framasoft, des membres d'une association comme Framasoft, c'est en quelque sorte une condition nécessaire. Alors pas du tout suffisante, mais en tout cas nécessaire pour, en quelque sorte, garder garder une certaine possibilité pour les citoyens de garder le contrôle sur leurs outils.
J'aimerais prendre encore une autre métaphore. Quand on regarde comment se passent aujourd'hui les produits de la nourriture, en fait, on a exactement les mêmes travers. L'industrie nous produit énormément de bouffe, de malbouffe, facile, hein, et puis dans nos vies stressées, on ne prend pas le temps de faire la cuisine, de faire les achats, et on achète des produits préparés. Alors j'espère que vous le savez, quoi. Vous voulez rester en bonne santé, fouillez les produits préparés, quoi. Oui. C'est clair, hein, c'est pas compliqué, hein, la vie. Hein. Ouais. Quelqu'un qui décide de manger bio et d'aller acheter localement ses produits, il va devoir aller à plusieurs boutiques, c'est chiant, alors que le Leclerc me propose tout dans la même galerie, c'est formidable. En plus, je vais acheter des produits bruts qui seront pas beaux, qui seront plus difficiles à mettre en œuvre et tout, et il va falloir que je fasse de la cuisine. C'est beaucoup de temps tout ça.
Oui.
Oui. Eh bien, c'est rigoureusement la même chose quand on veut passer au logiciel libre. Mais alors, rigoureusement. Donc, ce n'est qu'une question de volonté. C'est une prise de conscience. Je prends conscience qu'en fait, l'industrie me propose des produits qui ne sont pas propres. Et je fais l'effort, parce que je sais quand même que ça existe, même si je n'en ai jamais entendu parler. Je sais que ça existe. Peut-être que si je vais trouver, frapper à la bonne porte, je vais finir par tomber sur quelqu'un qui va me donner les bons conseils. Et qui va me dire, oui, tu peux tout faire en logiciel libre. Et tu auras une machine propre. Et un comportement éthique. Et ton ordinateur aura un comportement éthique. Et voilà.
Framasoft s'est retrouvé avec effectivement une audience et un développement de son usage important et justement jusqu'à devenir une sorte de figure de proue, même de solution vue comme étant l'alternative unique du point de vue des utilisateurs. Même du coup, c'est sur cette base que s'est lancée la campagne Chaton, c'est-à-dire à un moment, je ne sais pas si ça vous parle, je vous en donne les éléments de départ. L'idée était de dire, eh bien, ce que Framasoft a réalisé, c'est-à-dire la capacité à accueillir un très grand nombre d'utilisateurs, plusieurs millions derrière un assez grand nombre de services, plusieurs dizaines, eh bien en fait, pardon, ça ne demande pas des moyens colossaux. Hein. Framasoft, c'est une asso qui a à peu près 500 000 euros de budget annuel, qui a une dizaine de salariés aujourd'hui qu'on avait moins à l'époque. Donc c'est-à-dire, bon, c'est quand même une grosse association pour du contexte associatif, mais ça reste néanmoins une toute petite entité. Et donc l'idée, c'était de dire, eh bien, en quelque sorte, il y a plein d'autres gens, ici en France et voire ailleurs dans le monde, qui peuvent faire la même chose. Il suffit de se réunir à deux, trois informaticiens, de commencer à installer un premier serveur ou deux, trois serveurs, et puis d'installer ces mêmes logiciels que Framasoft utilise, c'est-à-dire ces mêmes logiciels libres, eh bien, vous pouvez les utiliser de la même façon. On peut bien sûr partager les uns les autres du savoir-faire, etc. Et à partir de là, eh bien, les utilisateurs qui aiment bien utiliser Framadat pour prendre des rendez-vous à la place de Doodle, eh bien, ils pourront le faire aussi bien sur un serveur de Framasoft que sur un serveur d'une autre association. Et c'est comme ça que s'est créé donc le mouvement Chaton.
Chaton, un acronyme tout mignon qui signifie collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, Chaton, qui vise à rassembler des structures proposant des services en ligne libre, éthiques et décentralisés, comme des alternatives respectueuses des données des utilisateurs et de leur vie privée. Par peur de devenir le grand supermarché du libre francophone, et du coup de perdre son identité et ses valeurs, l'idée qu'a eu Framasoft est géniale. On retrouve donc Serge avec le chaton Lorettien Libre, basé au sud-ouest du 44.
Les chatons ne proposent pas tous les services de Framasoft, mais chacun propose des services à la mesure de ses capacités, de ses volontés, de ses possibilités. Donc voilà, nous on a un certain nombre de services, qui sont en général les plus demandés. Et puis d'autres chatons proposent d'autres services, et petit à petit ça libère Framasoft de la charge et des ressources que eux sont obligés de mettre en œuvre. Donc voilà l'idée des chatons. Et nous proposons comme AMAP, c'est-à-dire vraiment des services locaux, avec des gens qu'on peut contacter, qu'on peut voir, hein, et évidemment des valeurs, des cités importantes.
L'idée de dire la référence aux AMAP du numérique, donc effectivement il y a cette idée de proximité, Alors l'intérêt, bah, du coup, il va être double. Il va être d'abord qu'à un moment, une entité comme Framasoft, en fait, n'est pas en capacité, en gardant sa taille actuelle, à répondre à l'ensemble des demandes qui lui parviennent. Donc, c'est-à-dire que Framasoft est arrivé à un stade où ses infrastructures ne permettent pas de supporter l'ensemble des besoins potentiels qui lui sont transférés. Hein. On a eu le cas, par exemple, encore au moment du confinement, où il y a un certain nombre de professeurs, d'enseignants qui ont voulu utiliser les services de Framasoft. Mais évidemment, une association de 10 personnes n'est pas dimensionnée pour accueillir des millions d'élèves du jour au lendemain. Donc, c'est un premier problème, c'est que du coup, Framasoft, à ce moment-là, a le choix entre refuser des nouveaux utilisateurs, mais donc du coup les renvoyer vers les outils qu'ils utilisaient avant, ou se transformer, c'est-à-dire passer d'une association de 10 personnes à une association de, bah, pardon, une association de 50 personnes, 10 salariés, à une association de 100 salariés ou 1000 salariés ou que sais-je, et avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire très probablement il perd son identité, ou même certainement il perd son identité. Donc voilà, donc Framasoft ayant décidé de ne pas grossir au-delà d'une certaine taille, si on veut pas refuser des gens, bah, du coup il n'y a pas le choix, il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui à un moment fassent une partie du taf. Donc quand aujourd'hui vous utilisez le service d'un chaton, j'ai oublié de revérifier, mais il y en a, on doit se rapprocher de la centaine, là il y a une centaine d'assos en France qui font ça, bah, déjà à chaque fois que vous utilisez le service d'un chaton, par exemple comme Picassoft, mais encore une fois un des nombreux autres, à la place d'utiliser un service de Framasoft, bah, quelque part vous soulagez Framasoft faites en sorte que Framasoft n'ait pas besoin de plus de travail, puissance informatique, etc. pour répondre à vos besoins. Donc vous participez à répartir la charge. C'est aussi l'idée derrière, après, d'établir une proximité régulière, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée de, voilà, du rapprochement consommateur-producteur, comment est-ce qu'on peut le retrouver avec typiquement la production locale au niveau alimentaire. Un autre concept qu'on aime bien mettre en avant, c'est celui d'archipélisation. Et donc l'idée, effectivement, c'est plutôt que de construire quelques gros continents, eh bien, c'est de construire des archipels. Et du coup, dans chaque archipel, eh bien, dans chaque île de l'archipel, eh bien, on reste en quelque sorte à taille même. Et donc à l'intérieur de chacun de ces îles, eh bien, on peut connaître peu ou prou les autres, discuter peu ou prou de la façon de s'organiser ensemble, etc. Et évidemment, pour éviter l'effet d'isolation, eh bien ensuite, il faut des mécanismes qui permettent à ces différentes îles de communiquer ensemble, etc. Et c'est typiquement ce que fait aujourd'hui le collectif Chaton. Donc c'est un endroit où eh bien, les différentes associations qui proposent des services à la Framasoft, mais du coup j'ai envie de dire aujourd'hui à la Chaton, ont des espaces de discussion, d'échange entre eux. Alors après, ça peut être simplement des échanges d'informations, ça peut être des échanges de bons procédés. Je te fais tes backups, tu me fais tes backups, par exemple, comme ça, en cas de problème, comme on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé au VH, eh bien, si ça brûle d'un côté, ça ne brûlera pas de l'autre, par exemple. Hein, mais ça peut être aussi de se dire, ah bah tiens, il y a déjà ce service qui est très très bien offert aujourd'hui parmi les chatons, donc je vais plutôt essayer, moi, de mettre en place un autre service qui est moins disponible, etc., etc. Donc c'est d'avoir à la fois chaque entité est autonome et puis du lien entre ces entités pour qu'elles se coordonnent après en réseau. Quoi. Si tel chaton s'arrête, évidemment après vous pouvez utiliser tel autre. Alors le coût n'est pas nul, ça voudra dire effectivement peut-être changer un petit peu une partie de ses habitudes, une partie de ses adresses, etc. Ça veut dire, et peut-être surtout du coup se préoccuper de ses données. Donc ça veut dire que le chaton de départ, eh bien, par exemple, avant sa disparition, il va s'occuper de vous rendre vos données. Alors ça reste des engagements d'êtres humains qui peuvent ne pas les tenir ou ne pas avoir les moyens de les tenir. Du coup, une fois que vous avez ces données, eh bien, vous pouvez à nouveau les retransmettre à un autre chaton qui va les réintégrer. Par exemple, si vous utilisez un service de type Nextcloud qui permet de stocker l'ensemble de vos fichiers, etc., on parle pas d'une opération extrêmement lourde, quoi. Si vous avez un export de votre carnet d'adresse, de votre fichier, etc., vous en faites une copie, vous le remettez ailleurs. Mais oui, ça va vous prendre, cette migration, elle va peut-être vous prendre quelques heures ou une demi-journée. Vous avez une transparence beaucoup plus forte, typiquement dans vos données, puisqu'aujourd'hui, effectivement, si vos données sont trimballées, par exemple, vos photos vont être trimballées d'une machine Google à une autre, non seulement vous savez pas sur quelle machine, mais en vrai, vous savez même plus quelle photo, puisqu'il y a une telle quantité qui a été produite et vous en avez tellement plus la gestion, je dis un vous, c'est pas un vous pour vous, hein, c'est un vous générique, mais on en a éventuellement tellement plus la gestion qu'en fait, on sait même plus de quoi on parle. Là, effectivement, ça va nous obliger à un instant T, eh bien, à récupérer l'ensemble de ces photos, peut-être du coup à reprendre le temps de faire un tri, etc., etc. Et donc, d'avoir plus d'informations sur les données que l'on gère, les données qui se promènent, etc., etc. Mais oui, ça a un coût. In fine, ça a un coût. Donc, du coup, la réponse à la question de la fragilité d'un chaton, c'est les deux points. C'est d'abord, oui, c'est fragile. Hein, là, du coup, ce que vous avez dit sur le côté, le caractère associatif, etc. Il y a des chatons qui sont nés, il y a des chatons qui sont morts. Pardon pour l'image. Je vais faire pleurer des tas de gens, des tas d'enfants. Mais donc, effectivement, la résilience, en quelque sorte, elle est au niveau du groupe. C'est-à-dire que, et là aussi, c'était effectivement, à mon sens, un coup de génie de Framasoft. Je le dis d'autant plus tranquillement que je ne faisais pas partie de l'asso à ce moment-là, d'avoir senti que, eh bien, le fait que Framasoft devienne en quelque sorte un nouveau centre, même si c'était un petit centre, un nouveau centre était problématique. Et on se retrouve aujourd'hui avec une résilience qui se passe au niveau du groupe. Donc si un chaton ferme, eh bien, on en a un autre à côté. Et une fois, malgré tout, qu'on a pris un peu l'habitude, qu'on a appris un peu ses codes de communication, qu'on s'est intéressé justement un tout petit peu plus à nos données, à nos outils, à comment ça marche, à ce qu'on peut faire, eh bien l'effort il devient aussi de moins en moins important. C'est-à-dire qu'à un moment, le premier switch qu'on va faire où on va devoir vraiment passer d'une logique où on maîtrise rien du tout et une logique où on va devoir poser quelques questions, eh bien en fait après c'est aussi des compétences que l'on aura qui vont nous faciliter à passer d'un chaton à un autre par exemple, ou même d'ailleurs de repasser, pourquoi pas après, d'un chaton à un service commercial, de revenir à un chaton et de mélanger un peu et de s'y retrouver un petit peu mieux là-dedans et encore une fois de faire ses choix. Pourquoi la question de la sobriété numérique? Bah, il y a au moins deux grandes raisons. La première, c'est qu'on sait maintenant qu'un ordinateur, ça consomme vraiment de l'énergie et des matériaux et que la virtualisation et la dématérialisation, tout ça, c'est du pipeau. Donc, ok, on sait très bien que le numérique commence à occuper une place importante dans nos usages, et on sait très bien qu'on est dans un usage exponentiel. Donc effectivement, de ce point de vue-là, encore une fois, le lien se fait. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous explique qu'il faut moins utiliser sa voiture, que les courbes du pétrole sont exponentielles, etc., et que du coup on n'y arrivera pas, ben, en fait les courbes du numérique, elles sont aussi exponentielles. Et on n'y arrivera pas non plus si de la même façon, on a des usages qui sont irraisonnés, et à un moment, ce qui peut permettre de les raisonner, et là on reboucle avec ce qu'on disait au début, c'est de comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre effectivement quels sont les acteurs et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une augmentation de nos pratiques numériques. Si on fait un peu l'analyse de ça, on va se rendre compte qu'il y en a une bonne partie qui est non nécessaire, voire superflue, voire même nocive. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on va avoir une partie de nos usages aujourd'hui. Et encore une fois, je ne cherche pas du tout à être moralisateur quand je dis ça. Je pense que chacun peut faire... Si chacun fait un peu son analyse objectivement et ça marche évidemment pour moi, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qu'on fait et qui ne sont pas utiles. D'autres qui sont vraiment pas nécessaires, et même voilà, à un moment, on est dans une croissance permanente. Donc ça, c'est, voilà, ça rejoint peut-être effectivement le point, mais du coup, c'est cette même idée, en fait, de contrôle technique, en fait, de sobriété, de low-tech, etc., ça suppose à un moment d'être en capacité de dialoguer avec nos choix technologiques et de dire, bah, ok, ça je prends, ça je prends pas. De dire, c'est qu'on a, et moi j'ai aussi vraiment grandi là-dedans, dans ce moment où on a cru, et je pense que vraiment la grande majorité des gens ont cru, et probablement même tous les ingénieurs qui l'ont conçu ont cru, que ça coûtait rien. C'est-à-dire qu'à un moment, que vous fassiez un écran de 640x480 pixels, j'ai connu ça peut-être même en dessous, ou vous fassiez un écran de 2000 par 1000 points, et ben en fait ça change rien. Que votre vidéo ait une meilleure résolution ou pas, ça change rien. Tout ça, c'est du virtuel, tout ça, c'est du numérique, tout ça, ça compte pas. C'est pour partie négligeable, en fait, de la consommation énergétique, etc. Et puis, en fait, eh bien, petit à petit, on se rend compte que, évidemment que c'est absolument pas neutre, évidemment que ça a un coût, qu'à la fin, c'est des serveurs et que trimballer de la vidéo 4K ou 12K ou 4000K, ou envoyer du son sur un réseau, eh bien, c'est juste des ordres de grandeur qui n'ont plus rien à voir, quoi.
Proposer un service gratuit, clairement, c'est pas possible, c'est pas viable. Hormis si on est une entreprise, c'est soit on vend les données privées, soit on a un business model qui permet de soutenir ça. À côté, on peut pas avoir de service gratuit, 100% gratuit. Ou alors c'est un modèle gratuit uniquement familial. On peut être un chaton pour sa famille. Ce que je suis pour moi et deux, trois potes, et hop. Mais d'un autre côté, le libre ne répond pas à tout, parce que le libre, majoritairement, repose sur des gens bénévoles. Parfois, ça fait des choses compliquées où il faut des ressources et les gens sont pas prêts à payer. Mine de rien, je prends l'exemple de Drycat, il m'a coûté à lui tout seul plus de... J'étais à 1300 euros en 2020. pour que tout le monde, enfin pour que 300 000 personnes puissent utiliser. 300 000 personnes à l'échelle d'Internet, c'est que dalle.
C'est d'ailleurs une des raisons de la fermeture de cette année du chaton de Raikat porté par Tristan. À noter que les utilisateurs sont bien entendu accompagnés dans leur migration vers un autre chaton, d'autant plus que puisque c'est du libre, toutes les données sont exportables facilement. Ce qui interroge, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas prêts à payer pour des services numériques que nous utilisons pourtant. Car bien souvent, on s'en rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Et je précise payer avec de l'argent. Car on ne peut pas faire comme si nos pratiques numériques n'étaient pas organisées par des plateformes qui font tout pour nous séduire afin de capter des données comportementales, travaillées par des algorithmes, puis revendues à des annonceurs. Là où je veux en venir. Dans le modèle dominant de la publicité, nous payons en données personnelles, en temps d'attention et en inconscient influencé. Il est vrai que je prends conscience seulement maintenant de l'impact environnemental évident des pubs en ligne. Outre l'acte d'achat de quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin, elles ralentissent le chargement de la page web et consomment donc un volume plus important de ressources énergétiques. Se pose alors par ricochet la question sur ma pratique et sur nos usages. A-t-on vraiment besoin qu'une vidéo visionnée soit systématiquement en haute définition? Est-ce que je regarde vraiment tous ces films et séries avec attention? Combien de fois je me suis endormie devant? N'y a-t-il pas des mails et newsletters que je pourrais supprimer? Des onglets ouverts que je pourrais enfin lire ou enregistrer pour plus tard? Je prends conscience aussi que le numérique n'est pas si virtuel que ça. Tout l'Internet est hébergé sur des serveurs physiques stockés dans des énormes hangars un peu partout sur la planète, appelés data centers ou centres de données, évidemment gourmands en énergie. Quand on migre vers un chaton, on se rend compte aussi de ce que ça demande en matériel et en électricité. Comme quand on achète en fait à un producteur en vente directe, qui est une exploitation maraîchère à taille humaine. On se rend compte aussi du coût. J'apprends que chaque chaton décide si ses services sont payants à prix libre ou gratuit. Se positionnant à l'opposé du modèle publicitaire et de sa collecte puis revente de données, il fonctionne grâce aux dons lorsque les services proposés de mail, d'agenda, de visioconférence, d'outils bureautiques collaboratifs, d'hébergement, de stockage et partage de données sont gratuits. À quand du coup la défiscalisation pour ces projets et associations qui œuvrent pour l'intérêt général et pour une société plus juste? Passons d'ailleurs à deux associations qui s'inscrivent dans le paysage nantais. Je tombe sur Fait Maison, FAI Maison, qui promeut le développement d'un Internet respectueux des droits et libertés, on reste dans le thème, et est à ce titre un fournisseur d'accès Internet associatif basé à Nantes. L'idée est d'être accompagné à faire soi-même son accès Internet, à moindre coût, et en se démarquant de la logique des opérateurs commerciaux, tout en proposant un Internet libre, neutre et complet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Éclaircissement avec le DataGull numéro 23, Neutralité, j'écris ton nom, de France Télévisions.
Posséder une route n'autorise pas à choisir les voitures qu'il emprunte. Bonjour. Sur Internet, tous les paquets naissent libres et égaux en droit. Les paquets, ce sont les petites valises qui transportent les informations circulant sur le réseau des réseaux. Tel qu'il a été créé, le net n'est qu'un tuyau qui transporte tous ces paquets de façon neutre, quel que soit leur contenu. C'est ce que l'on appelle la neutralité du net. Cela n'a rien de novateur. Après la Seconde Guerre mondiale, en France, le Conseil national de la Résistance proclamait déjà la neutralité de la correspondance et l'appliquait à la poste. Le rôle du facteur est de transmettre la lettre de Jean à Stéphane, peu importe son contenu. Mais Internet grandissant, les entreprises chargées de gérer les tuyaux, les fournisseurs d'accès, ont pris de l'importance. Or, les plus gros opérateurs, comme les Américains Time Warner ou Comcast, produisent aussi des contenus pour remplir ces mêmes tuyaux. Du coup, quand ils voient passer gratuitement sur le net des choses similaires à ce qu'ils vendent dans leurs offres câblées, la tentation est grande de fermer le robinet. En 2008, aux États-Unis, Comcast a été condamné par la FCC, la Commission fédérale des communications. Le géant américain avait tranquillement choisi de modifier les paquets provenant de BitTorrent, un réseau d'échange de fichiers en peer-to-peer. Ces paquets, une fois transformés, faisaient sauter la connexion de l'utilisateur et empêchaient le transfert. En 2013, en France, l'opérateur Free a supprimé par défaut chez ses abonnés toutes les publicités sur YouTube. De quoi faire pression sur le géant Google. Deux exemples où non seulement le facteur ouvre l'enveloppe, mais en plus, il réécrit la lettre selon ses besoins. Dernièrement, la surcharge du réseau est devenue le nouveau chiffon rouge agité par les géants des télécoms. Certains fournisseurs de contenu boucheraient les tuyaux. Selon une étude, Netflix, par exemple, utiliserait 34% de la bande passante aux États-Unis aux heures de pointe. étude menée par l'entreprise canadienne Sandvine, dont le business est justement de vendre des outils de régulation du réseau. C'est d'ailleurs les services de Sandvine qui bridaient BitTorrent dans les tuyaux de Comcast, un détail. Mais heureusement, les fournisseurs d'accès ont la solution miracle, faire payer les services les plus gourmands, comme Netflix. Ceux qui pourront signer le chèque deviendront alors prioritaires dans les tuyaux, comme si on ouvrait une voie VIP sur toutes les autoroutes, uniquement réservées à quelques grosses berlines, pendant que les autres restent coincés dans les bouchons. La bataille en cours est bien celle des contenus et de leur business. L'accord TISA, en négociation depuis 2012 au sein de l'Organisation mondiale du commerce, le confirme. Il doit encadrer le commerce des services entre 50 pays du globe, 70% du marché mondial. Et l'un de ces paragraphes pourrait bien tordre la neutralité du net. Celui qui soumet l'accès aux services et applications à une gestion raisonnable du réseau. Juste ce qu'il faut de flou pour permettre un Internet à deux vitesses. Et pendant que les grosses berlines rouleront sur leur voie privée, tous les autres contenus resteront dans les bouchons. Les posts de blog, les vidéos anodines, les services encore inconnus, tout ce que chaque citoyen pourrait avoir envie de publier ou créer librement. En visant la neutralité du net, les fournisseurs d'accès s'attaquent à la liberté d'expression en ligne et glissent vers un modèle qui a fait ses preuves, la télévision, où quelques-uns décident de ce que la masse doit voir.
Une chose qui est très importante à mes yeux, c'est que l'Internet doit rester libre et ouvert. Et il ne s'agirait pas que, parce que des entreprises dévoient l'utilisation d'Internet, le politique décide de filtrer, fermer, empêcher l'accès à l'Internet. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Quand une loi sécurité globale demande aux entreprises privées de filtrer les fake news, on est déjà dans du filtrage de l'utilisation d'Internet. Et dans un filtrage particulièrement nauséabond, par exemple. Là encore, je vais prendre une métaphore. C'est pas parce qu'il y a des gens qui utilisent les rues et les routes pour vendre de la drogue qu'on ferme les routes et qu'on ferme les routes ou qu'on ferme les rues. Oui. Internet, c'est des routes. Hein ? Les gens qui circulent dessus, ils le font librement. L'Internet doit rester une route de circulation. Si elle est dévoyée, il faut s'en prendre aux gens qui dévoient l'utilisation de ces routes, et pas à la route elle-même.
La neutralité du réseau est donc un principe affirmant que le fournisseur ne doit pas ralentir ou bloquer, arbitrairement, l'accès de l'utilisateur à certains sites ou services, que ce soit pour des raisons économiques, politiques ou sécuritaires. Ce serait sinon une restriction des droits fondamentaux, puisqu'elle empêche l'utilisateur d'accéder pleinement à la ressource publique qu'Internet. Rappelons qu'à l'origine, Internet était libre et ouvert. Comme pour les AMAP du numérique, l'idée est de décentraliser en multipliant les fournisseurs d'accès Internet locaux, accessibles et gérés par les utilisateurs. Dans la même lignée, l'association propose parmi ses services un accès VPN, quel que soit son fournisseur. Passons à une autre association locale, présentée par Schreu, dans les locaux du lieu autogéré B17, rue Paul Bellamy.
L'association Nos Oignons, c'est une association loi 1901, qui a été créée maintenant en 2013. L'objectif de l'association, c'est de collecter des dons et des finances pour financer le fonctionnement de nœuds de sortie Tor. Tor étant un réseau qui fonctionne sur Internet, et qui a vocation à protéger l'anonymat lorsqu'on utilise et qu'on navigue sur Internet. Donc en fait, le principe, c'est que quand on utilise le réseau Tor, on passe par trois machines intermédiaires, et cette mécanique de communication, c'est ce qu'on appelle le routage en oignon, d'où le jeu de mots nos oignons et le logo du projet Tor qui est un oignon, voilà. Et en fait, le fait de passer par trois machines intermédiaires fait que le destinataire, donc le serveur web qu'on consulte, ne peut pas savoir d'où on émet notre connexion. Et dans l'autre sens, l'hébergeur par qui on passe, donc si on est abonné chez Orange, Free, Bouygues, SFR, enfin qui on voudra, lui ne peut pas voir quel site on consulte. Donc c'est en ce sens-là où il y a une préservation de l'anonymat, c'est que cette construction, grâce au protocole de routage en oignon, fait, et les trois machines intermédiaires, fait que On ne peut pas tracer notre navigation sur Internet. Et c'est ça qui protège notre anonymat. Et l'autre volet de Tor, c'est donc ça, c'est le réseau de communication, c'est ce qui fait fonctionner. Il y a aussi ce qu'on appelle le navigateur Tor. Le navigateur Tor, c'est un navigateur Internet. Donc, d'un point de vue pratique, en fait, c'est Firefox, mais qui a été paramétré pour permettre la connexion Internet uniquement via le réseau Tor. C'est-à-dire que quand je lance le navigateur Tor, je lance Firefox configuré pour se connecter au réseau Tor. Et ça me permet comme ça de naviguer sur les sites Internet de façon anonyme. Après, évidemment, si l'utilisateur qui navigue, à un moment donné, il saisit un formulaire avec sa carte bleue, son numéro de téléphone, son nom, prénom, adresse, ben, il n'est plus anonyme. Voilà.
Tor combine plusieurs choses. Suppression des cookies à la fin de la session, bloqueur de pub par défaut, connexion sécurisée en HTTPS systématique, désactivation de JavaScript.
Dans les médias, Tor est relayé comme ça. En tout cas dans les médias dominants, comme on dit. Et donc c'est là qu'on va parler du dark web, du deep web, etc. qui de notre point de vue c'est vraiment de la construction sémantique et médiatique et politique, parce qu'en fait Tor c'est un protocole de communication qui fonctionne sur Internet, mais comme SMTP, IMAP pour le courrier électronique, comme IRC pour la discussion en ligne, comme, enfin voilà, Internet, c'est plein de protocoles de communication. Tor est un des protocoles de communication possibles. Donc, voilà. Et pourquoi il y a cette construction? Parce que, avec Tor, on a aussi la possibilité d'héberger son propre site Internet en masquant qui on est et l'endroit où on se trouve. Donc oui, il y a des activités illégales sur Tor. Mais, les études menées montrent qu'il n'y en a pas plus ou pas moins qu'en dehors de Tor, en fait. Mais c'est vrai aussi dans la vraie vie. Et puis surtout, le fait d'être masqué, c'est utilisé par des truands, oui, mais c'est utilisé par des journalistes pour garder la confidentialité de leurs sources, par des avocats, par des dissidents politiques dans de nombreux pays du monde quand même, pour pouvoir échanger avec l'étranger notamment, transmettre des informations. C'est aussi utilisé d'ailleurs par des militaires quand ils sont en opération à l'extérieur, ou des forces de police qui ont besoin d'enquêter de façon anonyme. Donc voilà, Tor en fait, ça reste un outil qui assure un degré d'anonymat, mais ça n'est qu'un outil.
Et Julien m'apprend un truc. L'utilisation de Tor, c'est certes pour se protéger individuellement, mais c'est surtout créer du bruit, en multipliant le nombre de relais, nécessaire pour protéger les gens qui en ont besoin dans des endroits sensibles ou qui traitent des informations sensibles. Quelle découverte ! En naviguant sur Internet via le logiciel libre Tor, je participe donc à faciliter la publication de scandales, du genre Cambridge Analytica, ou les programmes de surveillance de masse révélés par Snowden. Il y a là un réel enjeu de vulgarisation vers le grand public quand même. Schreu me parle d'ailleurs de leur prochaine campagne de dons « Laissez-nous utiliser Tor ».
Donc on a pris l'exemple de la presse, parce que ça nous semblait symbolique justement, ce côté « vous diffusez de l'information ». Cette information, elle intéresse plein de monde, et donc c'est bien de ne pas bloquer l'accès à vos informations, y compris justement aux gens qui, pour des tas de raisons, naviguent et accèdent à Internet via Tor, quoi. Voilà.
Il m'apprend aussi que des cafés vie privée sont proposés sur l'agglomération nantaise.
Café vie privée, c'est un mouvement mondial. En fait, au départ, ça s'appelait des crypto-parties ou des chiffres aux fêtes. L'idée, c'est... le point de départ, c'était d'échanger des clés de chiffrement numérique pour pouvoir communiquer entre nous, notamment par mail, de façon sécurisée. Donc de chiffrer ces messages, comme on dit. Parce que par défaut, sur Internet, tous les mails qu'on envoie, c'est des cartes postales. C'est-à-dire que tous les intermédiaires techniques peuvent lire le contenu des messages. Le chiffrement permet de mettre son courrier sous enveloppe. Donc, les intermédiaires vont voir que moi, Schrush, t'envoie un email, par exemple. Mais par contre, ils ne pourront pas lire le contenu. Et l'idée, c'est de faire ensemble, voilà. Et de montrer aux gens comment on fait, etc.
N'avez-vous pas l'impression que plus il y a de technologies dans nos vies, plus nous avons besoin de lieux physiques pour se rencontrer, faire avec ses mains, échanger. Être accompagné aussi, dans l'utilisation et la compréhension des nouveaux outils pour faire face à la numérisation des pratiques et des services. Avant de conclure ce podcast, il est grand temps de se tourner vers Julien de l'association nantaise Ping, qui invite tout un chacun à explorer ensemble les sentiers numériques.
Il y a deux idées peut-être qui sont en parallèle, le fait d'être autonome en effet individuellement, collectivement sur ces compétences-là, et puis le fait aussi d'aller explorer, c'est parce que du coup derrière la façade il y a toujours des choses qui se cachent, et du coup derrière le mot exploration c'est un peu ça, c'est on va vers un endroit qu'on connaît pas forcément, donc on y va à plusieurs et puis on essaie de défricher comme dans la jungle un petit peu quoi, c'est un peu la jungle quand même. Et l'exploration, ça permet aussi de se faire sa propre idée un petit peu.
Oui.
Toi, d'avoir un regard un peu critique au sens du connaisseur, quoi, qui connaît un peu plus comment ça marche. On va essayer de créer des cadres qui rendent possible l'appropriation. Même si c'est complexe de s'approprier un téléphone portable, c'est très compliqué de savoir comment ça marche à l'intérieur. Mais au moins créer des endroits où on peut réparer un ordinateur, par exemple, ben c'est montrer que comment c'est fait à l'intérieur et du coup. Ben, ce contexte-là de réparation, d'atelier de réparation d'ordinateurs tous les mois qu'on met en œuvre, eh ben, il permet aux gens peut-être de réparer effectivement leur ordinateur, mais en plus de dire, ah bah ouais, c'est des technologies obsolètes, comment s'est fabriqué l'électronique, avec quels matériaux, d'y réfléchir. Hein. Et la culture numérique, elle est un peu basée sur ce principe-là, c'est qu'il n'y a pas une somme de choses à savoir, c'est que, en pratiquant, tu portes un regard sur ce contenu-là qui est en train d'évoluer, quoi. Ça rejoint les lieux physiques et les espaces numériques, toi. Nous, on n'a pas le monopole de ce sujet-là. Il y a une dizaine de lieux, voire 15 peut-être à Nantes, où il y a des animateurs qui t'accompagnent. Mais il faudrait que pour ça, il faudrait qu'il y ait une dimension culturelle et politique qui soit assumée par les élus, par exemple. On a basculé vers les Fab Labs en 2010-11, toi. Et du coup, les ateliers qu'on anime maintenant, eh ben, il y a de quoi faire du bois, de la couture, de la fabrication numérique. Et en fait, les petites imprimantes 3D qu'on a fabriquées, elles ont été possibles parce que il y a 15 brevets qui sont tombés dans le domaine public. Donc on arrive encore à ces questions de copyright et de brevets. Et qui ont permis à une université anglaise d'expliquer comment faire une imprimante 3D portable. Et du coup, c'est lancé dans cette aventure-là. Mais encore une fois, toi, ça mélange deux trucs. Le fait de pouvoir produire local des technologies, hein, ça c'est quand même intéressant. Projet du MIT au début, c'était aider en Afghanistan l'extension d'Internet, réparer des tracteurs en Inde parce qu'il manquait des pièces qui étaient produites par les industries allemandes, toi. Donc c'était produire local, toi, qu'on revient à la nourriture. Donc ça, c'est quand même un truc qui est revenu, toi, avec les masques aussi, toi. Et par rapport à ta question sur la culpabilité, en fait, le gros biais des outils web qu'on nous propose, c'est qu'ils sont là uniquement pour. Parce qu'on a envie de ça, hein, pour notre désir individuel et notre se valoriser en tant que personne sur LinkedIn, etc. Et du coup, ça met de côté ce qui est propre de l'humain, c'est de coopérer, de s'allier, de créer du collectif. Bah, c'est peut-être ça l'utopie à recréer, c'est que les technologies soient créées au sein d'éducation populaire et pas détournées, toi. Il faudrait qu'on puisse créer des technologies désirables, adaptées à cet endroit qui est ni l'État ni le marché, quoi. Alors que là, on n'utilise que des trucs qui sont pensés pour le marché.
C'est vrai.
Donc bah forcément, on n'est pas pour.
Bon, je crois que là, c'est pas mal. Je me sens un peu moins perdue. Je sais un peu plus où je me situe dans tout ça et surtout vers quoi je veux tendre. J'aime beaucoup la métaphore alimentaire. Elle est assez parlante. Elle nous éclaire sur ce qui se passe, les dérives alimentaires et les solutions alternatives. En fait, il existe aussi des producteurs locaux d'informatique, de numérique et de technologie. La médiatisation grand public des scandales liés au numérique permet une prise de conscience généralisée progressive. La multitude d'acteurs qui œuvrent pour un Internet libre et respectueux, et par ricochet pour un monde solidaire et équitable, sont là pour nous aider et nous accompagner sur ce chemin s'ils nous intéressent. Car bien entendu, cela appartient à chacun d'emprunter ce chemin là tout de suite, plus tard ou bah on verra bien, ou peut-être jamais. Ceux que j'ai rencontrés ont tous dit que le plus important c'est de proposer une diversité de choix avant tout. Une diversité de vision du monde. Je cite d'ailleurs Jean-Robert Pitt qui nous fait une éloge de la diversité dans son livre Le génie des lieux. Rechercher, cultiver la diversité en toutes choses est non seulement le meilleur moyen d'enrichir les échanges entre les hommes, et donc le meilleur usage possible de la mondialisation galopante, et en outre le plus sûr moyen de réenchanter le monde. Fin de citation. Et puis, en fonction du moment, de notre usage, de notre temps, de notre motivation et de l'outil, on peut tout à fait switcher en fait entre monde libre et monde propriétaire, entre surf anonyme et comportement ciblé, entre rapidité extrême et temps raisonné, entre opulence efficace et sobriété saine. À condition, bien entendu, qu'on puisse comprendre ce qui se passe, comment cela est fait et dans quel but. Autrement dit, une parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui concernent l'opinion publique, transparence, je t'invoque. L'idée n'est pas non plus de se sentir coupable, comme on peut le voir parfois dans la prise de conscience écologique. On fait comme on peut, chacun à son rythme. Et c'est intéressant de conscientiser sa pratique et usage en se questionnant. Qu'est-ce que je vais voir sur mon téléphone? Pourquoi? À quelle fréquence? À quoi il me sert? À quoi me sert mon ordinateur? Etc. C'est par ces questions qu'on construit chacun la société dans laquelle on vit. Framasoff nous propose cet éclairage. La société de contribution est une société de l'effort qui va nécessiter de prendre du temps, mettre de l'énergie. Alors que la société de surconsommation est une société de confort qui ne porte pas un avenir d'égalité et de fraternité. Vous trouverez d'ailleurs en commentaire de ce podcast les ressources que j'ai découvertes au fil de mes recherches et discussions. Le mot de la fin avec Serge et son irrésistible engagement.
Pour moi, le meilleur modèle, c'est une solidarité locale entre gens de bonne volonté.